une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Cette semaine, c'est un épisode sponsorisé par Emma Québec et c'était un réel plaisir.
Pour vrai, c'est ça, comme tu dis, en toute transparence, c'est un épisode sponsorisé, mais le sujet était, je trouve, à mon sens, tout aussi intéressant que tous les podcasts qu'on fait, sinon plus important même que ben des podcasts qu'on fait.
En fait, oui, plus important que probablement la grande majorité de nos podcasts.
Exact. On a reçu Olivier puis Jonathan. Olivier, qui est un donneur de cellules souches et qui a sauvé une vie par son don. Donc, il nous a parlé de son expérience. Et on a reçu Jonathan, qui de l'autre côté, lui, a reçu une greffe de cellules souches et ça lui a littéralement sauvé la vie. Donc on parle un peu de finalement l'expérience des deux personnes, l'importance, l'impact que ça a eu dans leur vie, puis tout le processus, comment ça fonctionne. Et puis on a beaucoup appris aussi sur comme, ouais, c'est quoi les cellules souches, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Mais c'était super, super intéressant. Je suis super content d'avoir fait ce podcast-là, d'avoir rencontré ces personnes-là. C'était super touchant. Super intéressant.
Tout au long du podcast, on vous parle un petit peu de comment ça fonctionne, c'est quoi le registre des cellules souches, c'est quoi en fait une cellule souche, mais plus rapidement en ce moment, puis parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis qu'après avoir parlé aux gars, c'est vraiment je trouve que c'est, comme Dom disait, extrêmement important. Allez vous inscrire au registre des donneurs de cellules souches parce que c'est tellement facile, puis ça se peut qu'à un moment donné, on vous appelle pour vous demander de sauver une vie, puis c'est vrai, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme gagner à l'auto. Olivier dit ça souvent, c'est comme gagner à la loterie. C'est vrai, sauver une vie, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire qu'ils ont fait ça avec un impact aussi direct pour finalement aucun point négatif ou très, très peu, là.
S'inscrire, c'est pas compliqué, c'est ça demande pas de trop de temps, puis après ça, vous êtes dans le registre. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin de votre profil génétique, puis c'est un bon match, bien, vous allez lui sauver la vie. Puis, donc, une petite action, mais qui peut faire une grande différence.
Exact. Fait que c'est un fameux call to action, mais réellement, faites, prenez acte et allez vous inscrire. Et merci Emma Québec de l'opportunité. Yeah. Et merci à vous d'écouter le podcast.
Bonne écoute.
Yes, ça commence. Merci les gars, merci d'être là.
Merci d'être
merci à vous autres, yes.
On va vous avoir brièvement présenté pendant l'introduction, mais juste avant, présentez-vous donc les gars, s'il vous plaît.
Allez.
Ok, ben moi c'est Jonathan, j'ai 27 ans, je viens de Vaudreuil, je suis comptable, puis j'ai été greffé de moelle osseuse, d'où l'invitation, en 2017.
Cool. Okay.
Moi, c'est Olivier, je suis avocat, je viens de Rouyn, Noranda, en Abitibi, et je suis donneur de cellules souches. Voilà, donc merci de l'invitation, ça va être le fun.
Yes. Ben oui, certain.
Avant qu'on tourne, Olivier, tu disais que ça faisait un an, toi, que tu avais fait ton don jour pour jour aujourd'hui.
Oui, exactement.
Fait que félicitations, joyeux anniversaire de don.
Merci, 365 jours, oui, effectivement. Ouais.
Est-ce que ça te fait quelque chose?
Ouais, j'ai un petit feeling, en fait, c'est... En fait, dans les derniers jours, les dernières semaines, en fait, plusieurs fois où est-ce que je réfléchis ou je pense à la personne à qui j'ai sauvé la vie.
Mm-hmm. Est-ce que tu le sais, cette personne-là, c'est qui ou non?
Non, pas encore.
C'est anonyme ou...
C'est anonyme ben, pour la durée de un an.
Okay.
Après un an, on peut entrer en contact ensemble, mais dans un an, dans l'année qui suit, en fait, là, tout demeure confidentiel. J'ai écrit une lettre à la personne. Pour me, ben, je peux pas me présenter, je peux pas dire qui je suis, si je suis un gars ou une fille. Si j'ai écrit une lettre en anglais, en fait, là, pour que ça soit neutre le plus possible, pour prendre ses nouvelles, puis manifester mon intérêt de rencontrer cette personne un jour. Mais elle sait pas qui je suis, de quel coin que je viens, puis ça peut être quelqu'un à travers le monde, comme ça peut être quelqu'un ici à Québec, ou quelqu'un, un voisin à Rouyn-Noranda aussi. Mm-hmm.
Mais tu le sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu tes cellules souches, puis que ça y a sauvé la vie, ça tu le sais?
Ouais, je sais. En fait, j'ai pu savoir après 3 mois du don, que la personne, ça avait été un succès, ça avait fonctionné. Je sais pas aujourd'hui comment qu'elle va, la personne, mais je sais en fait qu'il y a un intérêt peut-être à me rencontrer, ça Emma Québec me l'a confirmé, mais j'ai pas la confirmation qu'aujourd'hui elle va être en pleine forme. J'ai hâte d'avoir de ces nouvelles, honnêtement, tous les jours, je pense à ça. Il y a tout le temps un moment dans la journée où est-ce que je pense à cette date-là de l'année passée où est-ce que je me dis, ah, j'ai fait la différence. C'est une grosse phrase à dire, là, j'ai sauvé la vie de quelqu'un.
Ouais.
Puis j'ai hâte d'entendre ce que Jonathan va raconter. Là.
Lui, bon, c'est on ça. Va faire chacun votre histoire, mais là, tant qu'à avoir commencé avec toi, c'est quoi qui t'a poussé? Comment tu t'es dit, hey, genre, je vais m'inscrire comme donneur de cellules souches? Comment ça part, ça?
C'est une belle histoire, en fait. Là. J'ai retrouvé les dates, en fait, parce qu'Emma Québec me l'a demandé, justement. Ça faisait un petit bout que je cherchais. J'avais vu passer sur Facebook une publication, une dame qui disait qu'elle avait besoin, pour une de ses amies, qui avait besoin d'une greffe de cellules souches, en fait, puis qu'elle incitait les gens à s'inscrire au registre. C'est arrivé le 30 novembre 2019. Et le 11 décembre 2019, après, elle a fait une entrevue avec Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue, pour expliquer la démarche qu'elle faisait. Puis moi, ça m'avait vraiment touché. J'avais vu la publication Facebook. J'avais des amis en commun qui l'avaient partagée. À ce moment-là, je me suis renseigné sur c'était quoi le registre des cellules souches. Puis à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est pas compliqué, c'est rien. J'ai rempli le formulaire.
C'est ça.
J'ai ensuite reçu les cotons-tiges, j'ai envoyé mon ADN. Puis j'ai honnêtement, sincèrement, j'ai oublié ensuite que j'étais inscrit au registre.
C'est ça, parce que
jusqu'à l'appel.
Pour les gens qui nous écoutent, puis on va l'expliquer un petit peu à l'intérieur de certains segments qu'on va faire là, sans vous sur le podcast, mais pour ceux qui écoutent. C'est que tu t'inscris au registre, puis ça se peut qu'on t'appelle jamais, dans le fond.
Exact.
Mais quand on trouve un match, ben là, on t'appelle.
Oui. Puis c'est vraiment comme gagner à la loterie, avoir une compatibilité.
C'est rare, c'est très rare.
C'est très rare. Emma Québec vous l'a sûrement dit, là, il y a 42 millions de personnes inscrites au registre dans le monde, 55 000 environ, plus ou moins, comme qu'on nous expliquait au Québec. Mais ça se peut qu'il y ait des gens dans la vie qui ne reçoivent jamais d'appel, même s'ils sont inscrits au registre. Comme que tu peux être appelé plus qu'une fois aussi.
Mm-hmm. Mais quand tu reçois l'appel, c'est bonjour. Est-ce que ça vous tente de sauver une vie?
Ben, ça, c'est une anecdote.
Quand tu as reçu cet appel-là, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, j'ai capoté. Comme je l'ai dit, je suis avocat. Là, puis j'ai fait des audiences virtuelles, donc de mon bureau. Et j'avais ma toge. Je m'en allais à la cour. j'ai reçu un appel, c'est un numéro inconnu. Puis je me disais, ah, ben, je vais répondre. C'est peut-être un de mes témoins là, qui participe à l'audience. Puis finalement, ben, c'était Corinne, l'infirmière qui s'occupait de mon dossier, qui m'a appelé pour me dire que j'avais une compatibilité quasi parfaite avec une personne qui a besoin d'une greffe. Puis la situation était quand même urgente. Il fallait que je prenne une décision rapidement.
Mm-hmm.
Mais elle m'explique ça très rapide. Puis là, je m'en vais à la cour. Là. J'avais les idées ailleurs.
Ouais.
Mais au final, on s'est reparlé rapidement.
Est-ce que c'était ta meilleure audience? T'as-tu vraiment été au niveau pendant la cour?
Honnêtement, oui. J'étais tellement sur l'adrénaline.
Ouais.
Il y avait plein de choses qui se passaient dans ma tête. Là. J'ai eu victoire.
Ouais. Ah ouais, hein, mais, félicitations.
Oui, ils sont des vies puis ils gagnent à quoi en même temps.
C'est
easy.
Ah, genre, tout ça en un avant-midi. Ouais.
Exact.
Ouais.
Ouais, mais non, c'est des sentiments un peu indescriptibles là, de faire appeler comme ça, puis t'as l'opportunité. Moi, j'avais oublié là, que j'étais inscrit au registre, je me souvenais même pas de la date, de l'histoire comme telle. Il a fallu que je fasse des recherches, puis essayez-vous de retrouver une publication Facebook de quelqu'un qui a fait un partage sans connaître le nom. Puis, pour une anecdote, en fait, là, je l'ai trouvé l'histoire en décembre dernier parce que quand je me suis inscrit au registre, j'avais pris une capture d'écran de mon inscription, puis je l'avais mis en story là, sur Facebook, Instagram pour montrer aux gens que c'est possible de s'inscrire. Puis j'avais partagé l'article du journal de Radio-Canada. Fait que c'est comme ça que j'ai retrouvé l'histoire exactement. C'était flou un peu dans ma tête.
Qu'est-ce qui t'avait mené à faire ça?
Je me souvenais que c'était Facebook, une publication, mais je me souvenais pas exactement comme tel.
Ok, t'avais littéralement pratiquement oublié que t'avais fait ça. Là.
Ouais.
C'est combien de temps plus tard que t'as été appelé?
4 ans.
4 ans, ok.
Quatre ans, puis là, cette personne-là, au mois de décembre, ben, je lui ai écrit. Là, je la connais pas. Là, je l'ai retrouvée sur Facebook pour dire... Elle s'appelle Marie-Ève, puis elle vient du Témiscamingue, en fait. Là.
Mm-hmm.
Puis j'ai écrit, Marie-Ève, grâce à toi et ton ami, une autre de ses amies, Marcel, qui avait fait l'entrevue. Grâce à vous, ben, j'ai sauvé une vie en l'honneur de votre amie, qui, elle, malheureusement, est décédée aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu de donneur compatible.
Mm-hmm.
Fait que c'est une belle histoire, honnêtement. C'est plein de choses, tout s'est aligné pour faire en sorte que moi, ben, grâce à elle, j'ai réussi à sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est une grosse phrase de dire
ben
ça.
Oui,
mais
oui.
Ouais.
Sortir ça, ouais, c'est ça. C'est une belle fierté.
On va revenir sur après ton appel, qu'est-ce qui s'est passé, mais avant ça, Jonathan, toi, ton histoire a commencé quand?
Ça commence en 2017, quand ben, j'étais au cégep. En fait, là, ma dernière année de cégep, je travaillais quand même assez fort dans ce temps-là. T'sais, je travaillais de nuit, j'allais au cégep dans le jour, je travaillais la fin de semaine, en fait.
Mm-hmm.
Puis, ben, c'est ça, un moment donné, je me suis rendu compte que je filais un peu moins bien que d'habitude. T'sais, j'étais quand même assez en forme à l'époque. Tu sais, je faisais du sport et tout ça. Mais vraiment, j'étais fatigué, tout le temps fatigué. J'étais essoufflé beaucoup. Jusqu'au point, j'ai pris un rendez-vous, en fait, dans une clinique. Je suis allé faire des prises de sang. Puis là, pour l'anecdote, en fait, là, c'était une petite clinique, en fait, à Joliette, d'où je viens. Puis, il n'y avait pas de laboratoire pour analyser les prises de sang. Fait que, ils m'ont dit, ça dérange-tu d'aller les porter directement à l'hôpital? Fait
que, c'est pas avec ça.
c'était littéralement ça. Écoute, ouais. J'avais mes fioles de sang. Puis, c'était, tu vas les porter au laboratoire à l'hôpital. Fait que, parfait, je me rends à l'hôpital. Puis, en me rendant à l'hôpital, j'ai fait une petite chute de pression. Je voyais que mon énergie était pas bonne. Je me suis écroulé dans l'hôpital, mm-hmm. avec mon sang dans mes mains, dans mes pieds. C'est ça. Fait que quand j'ai réussi à me relever, je me rends au lab, ils me donnent ça. J'arrive de la clinique, ils m'ont dit de vous donner ça. Je retourne chez nous. Une heure ou deux après, je reçois un appel sur mon cell qui me dit c'est un médecin à l'urgence qui me dit qu'il faut vraiment que tu te pointes à l'hôpital.
Une heure ou deux après, t'es allé porter.
Ouais.
Ça a été efficace.
Ouais, ça a été quick. Puis là, ils me disent c'est ça, tes prises de sang sont vraiment pas belles.
Peut-être qu'ils sont dépêchés quand ils ont vu le gars tomber.
Tomber, ils sont dans ses mains. Genre.
Aidez-moi! Aidez mon sang!
Ouais. Fait que c'est ça, ils m'ont dit directement, tu sais, pointe-toi à l'hôpital, tes prises de sang sont vraiment pas belles. Puis, je sais, un médecin m'avait dit, tu sais, prépare-toi un petit sac, tu sais, de linge, là, t'en as pour plus qu'une journée, là. Ah, ouais. Prépare-toi, là, t'en as pour une couple de jours. Fait que,
toi, tu te doutais pas que t'avais quelque chose aussi.
Non. Moi, je pensais, tu sais, j'avais une grosse grippe, tu sais, que c'était.
Manque de force.
Faisais un peu d'anémie, là.
Chose de même, tu sais. Fait que, je suis comme, ok, fine, si je prends mon sac à dos, je me mets une coupe de t-shirt, une coupe de boxer, je m'en vais à l'hôpital. Puis je me présente à l'urgence. Puis c'est là qu'ils voient, tu m'attendais. Là. Fait que je rentre à l'urgence, ils prennent mes signes vitaux. Évidemment, là, c'est pas génial, mes signes vitaux. Là,
Mais tu devais avoir peur, là. Tu te sentais comment, genre, émotionnellement à ce moment-là?
Ben, écoute, j'étais tellement fatigué, puis tellement comme essoufflé, puis j'avais zéro d'énergie. Là. J'étais vraiment pas là, en fait. Fait que ouais, tu sais, j'avais peur, j'étais comme, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai? Puis c'est quand j'ai rencontré l'hémato-oncologue, justement, qui avait vu mes prises de sang. Il dit, écoute, j'ai jamais vu une formule sanguine comme ça. Là, écoute, t'as 32 d'hémoglobine. Puis normalement, tu sais, un homme de cet âge-là, ça entre 130, 150, puis même les athlètes, 160 d'hémoglobine. Mm-hmm. Puis tu sais, l'hémoglobine, c'est ça qui est responsable de transporter l'oxygène dans ton sang. Mm-hmm. D'où mon essoufflement, tu sais. Fait qu'à 32 d'hémoglobine, il y avait vraiment jamais vu ça. Tout de suite, j'ai été transfusé. En fait, j'ai eu deux transfusions d'hémoglobine, une transfusion de plaquettes. Puis ils m'ont dit, t'en as vraiment pour... Tu sais, moi, j'étais comme, OK, ça va durer combien de temps? Est-ce que je vais me remettre assez rapidement? Puis ils m'ont dit, non, écoute, t'en as pour une couple de mois à être à l'hôpital.
Ah, oh, ouais.
Puis, hein? Ouais. Puis c'est ça, moi, j'étais à Joliette. Puis eux, ils n'étaient pas assez spécialisés dans ce type de maladie-là pour me traiter directement à Joliette. Fait qu'il dit, cette nuit-là, en fait, à 5 heures du matin, tu pars en ambulance directement à Sacré-Cœur. Puis c'est eux qui vont prendre en main parce que nous, on n'est pas capable de traiter ce genre de maladie-là. Mm-hmm. Fait que c'est ça, je me rends à Sacré-Cœur. Là aussi, on m'attendait. C'est là que j'ai fait les examens, en fait, pour savoir avoir mon diagnostic. J'ai fait une biopsie puis une ponction de moelle osseuse. Ils ont analysé justement ma moelle osseuse. Puis là, ils ont vu qu'elle était scrap, elle était complètement déficiente. Puis ils m'ont donné le diagnostic d'anémie. En fait, il y a deux termes. C'est l'anémie aplasique ou anémie médulaire. C'est un peu la même chose. C'est vraiment une déficience de la moelle osseuse. Mm-hmm. Fait que c'est ça un peu l'histoire de mon diagnostic.
Puis, quels sont les... quel est le futur dans ces maladies-là, mettons, c'est quoi qui te disent qui s'en vient pour toi?
Ben, à l'époque, en fait, c'était pas vraiment clair. J'ai l'impression, avec un peu de recul, que le seul traitement, c'était vraiment la greffe de moelle osseuse.
Ouais.
Parce que c'est vraiment ton organe qui est déficient. Fait que, tu sais, tu peux pas faire de traitement de chimiothérapie, de radiothérapie qui va guérir ça. Tu sais, c'est pas comme un cancer où... t'as une cellule qui est mauvaise, là, tu sais, je suis pas médecin, qui est cancéreuse, puis que on va la traiter, mm-hmm. on va l'éradiquer, puis tu vas être guéri. C'est vraiment ton organe qui fonctionne pas bien. Fait que je crois que le seul traitement, c'était vraiment la greffe de moelle osseuse. C'est mm-hmm. d'avoir une nouvelle moelle qui va produire une formule sanguine adéquatement.
Mm-hmm. Puis là, on t'explique ça. Est-ce qu'on t'explique comment ça fonctionne pour recevoir une greffe, trouver un donneur?
Non, écoute, peut-être qu'ils m'ont expliqué, puis je suis sûr qu'ils me l'ont expliqué du mieux qu'ils pouvaient, mm-hmm. mais t'es tellement dans le stress, t'es tellement dans l'angoisse que on dirait que c'est l'information qui te rentre d'un oreille puis qui sort de l'autre, tu sais.
Mm-hmm.
Ils t'expliquent que ça va être un long processus, que c'est une maladie hyper rare. Moi, mon médecin m'avait dit, là, au Québec, c'est environ une personne sur 1 million qui attrape ça par année. Fait que, tu sais, on est quoi, 8, 9 millions au Québec, c'est 8 ou 9 personnes par année qui attrapent ça.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ça fait peur, tu sais, on dirait d'attraper une maladie que tu connais pas, en fait, là, mm-hmm. c'est vraiment ça.
T'as jamais entendu parler de
ben non,
ça,
c'est
là,
ça, ouais. tu sais.
Fait que, quand tu dis attraper, ça s'attrape ou ben tu...
En fait, ouais, en le disant, je me disais, je l'ai-tu vraiment attrapé ou j'allais plus peut-être développer? Ouais. Je sais pas, tu sais, je pense que les médecins, ils ont fait certains tests pour essayer de voir la provenance.
Mm-hmm.
Puis on n'a pas trouvé le
sapeur. Tu sais pas la cause de ça.
Non, c'est ça.
Ouais.
Je crois qu'il y a peut-être une partie génétique ou peut-être une chose que tu peux le développer, mais je sais pas de...
OK. Puis ton quotidien à l'hôpital, dans ce moment-là, ça ressemble à quoi?
Ben là, t'es hospitalisé. Ouais. T'es vraiment dans une pièce qui est grande à peu près comme le studio aussi. Puis tu sais, c'était avant la COVID. Fait que ce qui était spécial, c'est que on dirait qu'on avait moins conscience de la protection, là, tout ce qu'on peut mettre, les masques puis tout ça. Mais tu sais, moi, j'étais dans une pièce où, vu que ma formule sanguine était scrap, en fait, j'avais zéro système immunitaire. Fait que quand les infirmières venaient me voir, quand ma famille, mes amis venaient me voir, fallait qu'ils mettent quasiment un hazmat suit, là. Tu sais, il y avait une grande jaquette avec des élastiques autour des poignets, des gants, le masque puis tout ça. Fait que ça fait un peu spécial, tu sais, de voir ta famille qui vient te voir comme ça.
Mm-hmm.
Tu sais, la réalité à l'hôpital, c'est... Tu sais, tu te fais réveiller à 5-6 heures le matin, prise de sang pour voir si tu as besoin d'une transfusion durant la journée. Même chose le soir avant de te coucher, prise de sang pour voir si tu as besoin de transfusion pour la nuit, pour être en mesure de passer ta nuit puis de passer mm-hmm. ta journée. Tu te fais nourrir, mais c'est de la bouffe d'hôpital. T'sais, si t'es pas régulier dans tes repas, tu manges à 7h, à midi, puis à 5h. Si t'as pas envie de manger, ben, si t'as pas faim, tu skippes ton lunch.
Tout bad, ouais. Aïe, aïe.
Combien de temps t'es resté hospitalisé avant qu'il y ait un donneur, dans le fond, avant qu'il trouve un...
Je suis resté à l'hôpital à peu près 2 mois et demi avant d'avoir un donneur. Ça, c'était à Sacré-Cœur, en fait. Parce que, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, en fait, mais moi, mon protocole avec Maisonneuve-Rosemont, où j'ai été greffé, c'est que Maisonneuve-Rosemont, eux, ils vont prendre les patients seulement quand ils ont trouvé leur donneur. Fait qu'ils peuvent pas t'hospitaliser puis te garder quand t'as pas ton donneur parce que ça peut prendre trop de temps puis ils ont vraiment besoin mm-hmm. de leur lit, c'est comme un peu tous les hôpitaux.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça, 2 mois et demi, à peu près, là, à Sacré-Cœur. Puis là, quand j'ai eu, le go, c'est bon, on a trouvé ton donneur. Ben là, j'ai été transféré à Maisonneuve. Ça a été assez rapide quand même. Ben rapide, c'est relatif, là, mais ça a pris peut-être 3 semaines, 1 mois de préparation avant la greffe. J'ai reçu ma greffe. Puis après ça, ça a pris 1 mois à peu près, là, comme il faut, le temps que ma formule sanguine remonte. Puis après ça, j'ai pu enfin sortir de l'hôpital après un grosso modo 5 mois à l'hôpital. Là.
Mm-hmm. C'est 5 mois que t'étais vraiment... Genre, t'étais pratiquement alité tout le temps, genre, j'imagine.
Ouais, exact. Ouais, c'est ça, je pouvais presque
aucune
pas...
énergie.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu tellement de transfusions sanguines que avec mon médecin, on avait déterminé un seuil, en fait, de maintenance. Parce que moi, vu que ma moelle osseuse, elle produisait plus de formule sanguine, elle produisait plus mon sang,
mm-hmm.
il fallait toujours que j'aie des transfusions, en fait. Fait que... Puis, c'est pas l'idéal, en fait, de recevoir des transfusions comme ça. Fait que, on avait établi un seuil, en fait, là, mon médecin, on avait fait des tests. Est-ce que tu es confortable avec, mettons, 75 hémoglobine? Est-ce qu'on peut te baisser un petit peu? De retarder tes prochaines transfusions. Mm-hmm. Fait qu'on avait établi un 50 d'hémoglobine. Mais tu sais, à 50 d'hémoglobine, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Puis aussi, le fait d'être constamment dans un lit d'hôpital, écoute, tous tes muscles, là, mm-hmm. ils finissent par s'atrophier. J'avais perdu tellement de poids. Puis, tu sais, tu es tout le temps le souffle-court. Fait que, tu sais, j'avais de la misère à me déplacer. T'sais, mon médecin était comme, il me disait, essaie de rester actif, déplace-toi dans ta chambre. Mais juste ça, c'était difficile.
Mm-hmm.
T'étais dans quel état d'esprit?
C'est une bonne gavre, oui.
Vas-y, ouais.
Excellente question. T'étais allé à l'école, puis t'as ça qui t'arrive comme ça du jour au lendemain. T'étais comment à l'hôpital? Ouais.
Ben, écoute, c'était principalement de la peur. Là. Je me demandais où ça allait s'en aller, parce que c'est une maladie qu'on connaît peu, en fait. Fait que beaucoup d'angoisse. Et puis je voyais aussi, c'est une certaine difficulté aussi à être dans un lit d'hôpital, puis voir ses amis, sa famille venir te voir, puis pas te regarder, tu sais, regarder avec un peu tellement de tristesse. Mm-hmm. Tu sais, t'es impuissant, là, tu peux rien faire, puis c'est juste ça, en fait, t'es impuissant. Tu peux pas changer ton sort, t'attends d'avoir l'appel, tu sais, du don.
Ouais.
Pour pouvoir continuer, là, en fait.
Est-ce que l'idée est-ce que la mort, c'est une idée qui t'a passé par la tête, genre? Est-ce que c'est ça? Tu pensais-tu à ça, comme peut-être que ça va être ça, la finalité, ou...
Ben, j'y ai pensé, mais on dirait que j'ai toujours eu la foi. Mm-hmm. j'ai toujours su, on dirait, que j'allais trouver un donneur, puis j'allais traiter, puis j'allais pouvoir continuer. Je me disais, mm-hmm. c'est une passe de ma vie, mais je vais trouver un moyen, puis c'est pas moi qui le trouve, le moyen, mm-hmm. là, c'est pas moi qui fais les recherches, puis tout ça, mais j'ai trouvé une...
C'était quand même optimiste, exact, malgré ouais. tout. Là. Tu sais, tu disais, c'est juste quelque chose qui va se guérir. Là.
Exact, ouais. Ah, ouais. Ouais, ouais,
ouais. Ouais.
T'as pas le choix, j'imagine.
Ben non, ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais. Cet espoir.
C'est quoi l'alternative?
Ouais.
C'est de te dire, ah, c'est fini. Là,
c'est ça.
Ouais. Fait que, Olivier, toi, tu reçois l'appel, puis qu'est-ce qui se passe après ça?
C'est une montagne russe d'émotions, là, parce qu'on te laisse... quelques jours à peine pour te dire faut que tu prennes la décision de tu t'es inscrit consciemment, ben c'est un peu inconsciemment que tu t'es inscrit au registre des donneurs, mm-hmm. parce que tu te dis peut-être les chances que je sois appelé, c'est vraiment gagné.
C'est comme
à la
tu mets ça dans un tiroir, tu ouais. le fermes. Là,
c'est ça.
C'est un peu comme le don d'organes. Tu te dis, genre, je signe mon affaire, puis je ne pense plus jamais de ma vie. Là,
exact. Puis c'est vraiment, tu fais ça spontanément. Puis tu te dis.
Le don d'organes, ça, par littéralement, exemple, tu prends pas la décision.
Ça, par exemple, tu ne t'en rendras pas compte si ça arrive. Là.
J'espère.
Ouais.
C'est ça.
Mais non, c'est ça. Tu sais, quand je me suis inscrit au registre, c'est vraiment, ça s'est fait automatique. Là. J'ai vu la publication Facebook, l'article de journal, je me suis dit, ben, crime, je vais m'essayer moi aussi, puis on sait jamais. Mais j'avais pas pensé à la finalité de mm-hmm. me dire, un jour, je vais recevoir un appel. Et là, quand l'appel est entré, c'est vraiment plein de choses qui se passent dans ma tête, de me dire, je trouve qu'il y a des questions, une question éthique aussi qui se pose, à savoir, le processus est très confidentiel, puis c'est correct, il faut pas que tu saches qui est le receveur. Mais je suis persuadé que si on me dit, ben c'est un petit bonhomme de 3 ans, une petite fille de 10 ans, par exemple, que toute la vie devant, ils ont toute la vie devant eux encore, je me dis, ben crime, je me poserai même pas la question, puis mm-hmm. je vais faire le don. Versus si c'est mon frère qui a besoin d'une greffe, je me poserai pas la question non plus. Si je suis compatible, je vais dire oui tout de suite, mm-hmm. c'est mon frère. Mm-hmm. Là, c'est un pur inconnu que j'ai aucune idée c'est qui. Un gars, une fille en Europe, aux États-Unis, mm-hmm. ici, à Montréal, mais. C'est là où est-ce que je me pose des questions. OK, là, comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais par la ponction mm-hmm. aussi, justement, mm-hmm. directement dans la moelle, la moelle osseuse? Je le fais par le processus d'afférèse. Donc, tu sais, c'est des...
Il y a différentes façons de le faire.
Mm-hmm. Oui, exact.
Toi, tu as choisi laquelle?
Afféreuse. Donc, dans le fond, c'est un processus où est-ce que tu prends une médication dans les jours précédents. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Tu sais, moi, je viens de l'Abitibi. Le centre transplanteur, il est juste ici à Montréal. C'est Maisonneuve-Rosemont. Mm-hmm. Donc, je suis venu passer une semaine avant à Montréal pour moi-même, dans la chambre d'hôtel, m'injecter la médication mm-hmm. qui est dans le ventre. Là. C'est des aiguilles, en fait, là, que je me mets pour faire stimuler la production de cellules souches puis les faire sortir aussi des os pour que ça aille dans le sang. Donc, c'est un processus où est-ce que, quand que tu reçois l'appel, on t'explique les avantages de un et l'autre, mm-hmm. de la méthode.
Puis parce que la ponction dans la moelle osseuse, c'est sous anesthésie, si je ne me trompe pas.
Exact. Anesthésie générale.
Ouais.
Moi, j'ai choisi l'autre procédé, où est-ce que ben, tu es assis dans une chaise à l'hôpital, puis c'est un 5-6 heures où est-ce que tu peux pas bouger, puis c'est dans mm-hmm. tes bras, puis il y a la centrifugeuse qui va conserver tes cellules souches, puis de l'autre côté, on te redonne ton sang, les globules, le plasma qui n'est pas utilisé. Donc, c'est comme ça qu'on me l'explique. Fait que, tu sais, l'état d'esprit, quand on m'appelle, c'est vraiment, OK, là, j'ai l'opportunité de sauver une vie. Puis si je dis non, cette personne-là est à risque de mourir parce que...
Des grands risques, en vrai.
C'est ça, quand tu es rendu à appeler le donneur, ça veut dire que tous les traitements précédents n'ont pas fonctionné. La greffe, c'est la dernière option possible pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, tu as une grande responsabilité après ça de te dire, j'ai fait le choix il y a 4 ans de m'inscrire au registre. là, ça se concrétise, fait que je vais aller jusqu'au bout du processus. Mm-hmm. Puis j'en parlais avec mon entourage, puis c'était quand même divisé dans mon entourage. Des gens qui disaient « oui, fais-le », d'autres « fais-le pas », tu connais pas la personne, tu sais pas c'est quoi qui va t'arriver. Mais...
C'est drôle parce qu'on dirait que peut-être que ma compréhension, peut-être que je comprends mal les dangers du don, parce qu'on dirait que, si comment tu me l'expliques, corrige-moi si je me trompe vraiment, là, c'est que les pour, c'est sauver une vie, puis les contre, c'est 5 jours un peu plate à t'injecter, mettons.
Ouais.
Fait que ça, on dirait que ça m'apparaît pas vraiment négatif, là, tu sais, je sais pas...
Sincèrement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait absolument rien de négatif dans le processus, puis si on m'appelle demain encore pour me dire que je suis compatible avec quelqu'un, je vais le refaire.
Tu vas le refaire, là, parce que c'était pas une expérience traumatisante pour toi, là.
Non, du tout. C'est sûr que la journée même où est-ce que je fais le don, ben après ça, t'es plus ferme, ton corps est... Et il n'y a plus vraiment d'énergie, puis tu as juste hâte d'aller te coucher.
Ouais.
Mm-hmm. Mais c'est la fierté quand tu te dis tu sors du centre à Maisonneuve Rosemont. Puis le feeling est un peu indescriptible. Là, puis tu sais, j'avais l'impression que je sortais dans l'entrée de l'hôpital à Maisonneuve. Puis,
merci! les infirmiers, les infirmières, les docteurs qui t'applaudissent.
Mais en fait, c'est un peu ça. Le personnel est là. Tu réalises pas le processus que tu viens de faire. Puis tu viens de sauver la vie de quelqu'un, mais quand que je suis au travers de monsieur, madame, tout le monde dans l'entrée de l'hôpital, puis je regarde ça, puis Maisonneuve Rosemont, il y a les images de l'émission de Garde 24/7, puis là, je regarde autour de moi, puis je me dis, crime, ben je viens de faire la différence, en fait, dans la vie de quelqu'un, puis ce sentiment-là, j'espère qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent aussi quand ils font ce processus-là.
Mais parce que... Mais tu sais, il y a un truc, tu sais, toi, t'es capable de ressentir... T'es passé à travers le processus, puis tu le sens, tu le sais que t'as aidé une personne qui est un peu reconnue, mais j'ai l'impression que des fois, c'est ça, il y a une affaire de nature humaine, d'empathie, de comme, c'est facile d'avoir de l'empathie pour les gens que tu connais, les gens proches de toi, les gens, mais t'sais, on est tant plus touché quand il arrive quelque chose proche de chez nous que quand il arrive quelque chose à l'autre bout du monde. Fait qu'on dirait de l'idée d'aider quelqu'un qu'on connaît pas, puis qui a aucun impact dans notre vie, on dirait que c'est abstrait pour bien du monde, genre.
Dans mon cours de média au cégep, il y avait la règle du mort par kilomètre. Mm. Fait que, mettons, tu prends le nombre de morts, tu le divises par le nombre de kilomètres de comment loin c'est de chez vous, puis ça fait une stat qui est la stat qui t'importe, mettons. Là. Ouais, si ton voisin est mort, ça touche vraiment, mais en ce moment, il y a des millions de personnes qui se font massacrer, puis ils sont comme tellement loin qu'on a de la misère à avoir de l'empathie, là.
Mais je pense qu'on n'est pas insensible.
Non, on n'est pas insensible. C'est pas ça que je disais. Là, mais...
Non, je sais bien. Mais c'est ça, c'est de dire. C'est la question que tu te poses. Tu connais pas la personne. Fait qu'au final, cette personne-là, elle saura jamais que c'est toi qui as dit non à l'aider. Mais j'ai espoir un jour que cette personne-là veuille me rencontrer. J'aimerais savoir qui est cette personne.
Ouais. Puis tu sais, au final, je disais ça, mais tu sais, dans le fond, c'est un biais cognitif, là, dans le sens que, je veux dire, c'est la vie de cette personne-là autant de valeur que justement ton voisin ou que n'importe qui proche de toi. Puis je veux dire, cette personne-là a des proches, cette personne-là a toute une... Tu sais, fait que c'est ça, ça a autant d'importance au final.
Ben, exact. Puis tu sais, justement, cette personne-là, si on s'est rendu à la liste des donneurs inscrits au registre, ça veut dire que toutes les personnes de son entourage n'étaient pas compatibles.
C'est ça, sa famille pouvait pas...
Parce que la famille, impact sur les autres aussi, là.
La famille a des probabilités vraiment plus élevées que d'être compatible, si je comprends bien. Fait que c'est sûr qu'ils ont checké avec la famille en premier. Puis là, une fois qu'on fait le tour, puis que, OK, ben là, il n'y a personne. Fait que là, c'est là qu'on regarde ailleurs, finalement.
Oui, exact. Puis on en parlait, Jonathan et moi, justement. Puis, tu sais, au Québec, dans les personnes qui n'ont pas de liens familiaux, apparentés, en fait, il y en a une vingtaine de personnes qui vont faire un don ou une greffe comme ça par année au Québec. Tandis que les gens dans un entourage, ben je connais pas exactement le chiffre, mais ça arrive plus régulièrement qu'on pense là, qu'il y a une compatibilité. Emma Québec n'est même pas impliqué dans ce processus-là. Donc, c'est pour ça que quand ça se rend jusqu'au registre, ben, ça veut dire que c'est urgent, là, la situation.
Jonathan, toi, est-ce que tu as, à ce moment-là, on a un donneur, est-ce que tu as la conscience du donneur ou toi, tu es plus dans ta position à toi de faire enfin, il y a une solution à mon truc, mais tu penses pas nécessairement à la personne au bord?
Non, écoute, ben c'est vraiment ça. En fait, je pensais pas vraiment au donneur. Puis même si on s'est rencontré un peu ce matin avec l'équipe d'Emma Québec, c'est ça que je leur disais. moi, j'étais, avant qu'Héma-Québec me contacte, j'avais même pas conscience d'un registre de donneurs. Mm-hmm. En fait, je savais pas que, c'était, que ça existait, puis je savais pas que...
Avant qu'ils te contactent pour ce qu'on fait là? Ou...
Exactement, okay, exactement. Okay, okay. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai reçu ma, mon don, en fait, je savais que ça provenait d'un donneur. Je savais que c'était rare quand même comme ça, puis que c'était un match difficile à faire, mais j'avais pas conscience, on dirait, de à quel point... le match.
Le pourcentage de chance.
Exact, c'est ouais. ça. C'est vraiment comme gagner à la loto, comme Oli disait tantôt. Tu sais, c'est vraiment... C'est hyper difficile de trouver quelqu'un qui match avec toi. Puis, c'est ça, quand on me dit qu'on a trouvé quelqu'un, vraiment, j'étais dans ma peau de receveur, puis je me disais, oui. Thank God, là, mm-hmm, mm-hmm. Enfin, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Là.
Mm-hmm. Puis, comment ça se passe, toi, cette opération-là? Puis, ça prend quelle forme?
Mettons, le moment que tu as reçu la nouvelle, ça ressemblait à quoi? Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé, mettons?
Ben, je dirais que le moment que tu reçois la nouvelle, qu'on a trouvé un donneur, versus quand tu reçois la greffe,
ouais,
c'est complètement deux émotions différentes. Parce que, comme je disais un peu tantôt, à Sacré-Cœur, j'étais vraiment en mode survie. Ça, on me donnait des transfusions vraiment pour que je puisse maintenir ma vie-là. Fait que quand on t'annonce qu'on a trouvé un donneur, ben, c'est un peu, encore une fois, de la peur parce que tu te dis, OK, c'est maintenant que les traitements vont commencer, c'est maintenant que je vais recevoir ma greffe. Tu es un peu encore dans l'inconnu parce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu recevais, c'était des dons de sang, des dons de plaquettes, puis un peu de magnésium, ces choses-là. Mais mm-hmm. Tu sais, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ben, c'est pas extraordinaire, mais.
C'est quand même le miracle de la ouais, science, là. Ça, on comprend ce que tu veux
c'est
dire.
Ça, c'est ça. Fait que c'est ça, un coup que tu l'appelles, puis que tu te dis, OK, ben là, on commence. Ben là, tu sais, je suis tout de suite transféré à Maisonneuve-Rosemont. Puis comment ça se passe, en fait, la greffe de moelle osseuse, en tant que telle, c'est vraiment pas quelque chose de douloureux. Parce qu'on t'installe un cathéter central, en fait, qui est comme un cathéter régulier, là, qu'on t'installe dans le bras. En fait, c'est juste qu'il est connecté à une veine plus importante, une veine un peu adjacente à la jugulaire. Fait que tu sais, il y a un meilleur débit, mais ça reste un cathéter. C'est quand même une bonne opération. Mais.
T'es éveillé?
Quand on te l'installe, t'es éveillé. Il y a une bonne équipe autour de toi parce que tu joues à côté de points quand même assez sensibles, mais ça se passe quand même assez bien. Puis, même chose quand tu reçois ta greffe, c'est ça. C'est comme un don de sang, en fait. Fait que tu vois, il te plug, en fait, ta moelle, puis tu la reçois. C'est vraiment plus les traitements en amont, en fait, parce mm-hmm. que. Pour recevoir ta greffe, c'est quand même un corps étranger. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine préparation pour pas que ton corps il se défende. Même si tu n'as plus d'énergie, en fait, si tu es déjà à terre, il faut qu'il y ait une préparation. En fait, moi, j'ai fait de la chimiothérapie puis de la radiothérapie pour être certain justement que ma moelle osseuse elle soit vraiment là, à plat pour pouvoir bien recevoir ma nouvelle moelle. Puis c'est ça, en fait, quand tu reçois, ben c'est comme une transfusion, en fait. T'es couché dans ton lit, puis c'est tellement un beau moment. Par contre, là, t'es couché dans ton lit, puis tu vois ça, en fait, là, c'est une poche un peu prunante noire, là, un drôle de mélange, mais
mm-hmm.
t'sais, ça coule, ça rentre dans toi, puis tu dis, tiens, OK, enfin. Là,
tu le vois rentrer, là.
Ouais, t'sais, goutte par goutte, okay, tu le vois passer dans le tuyau, puis il n'y a pas de mots, là, en fait. T'sais, c'est tellement... Tu vis un moment, là, tu dis, c'est ça qui va me permettre de survivre, c'est mm-hmm. ça qui va me permettre de vivre, c'est ça qui va me permettre enfin de sortir de l'hôpital, puis de vivre ma vie, d'accomplir mes rêves, puis de faire ce que je veux faire, tu sais. Il n'y a pas de mots, là, c'est vraiment...
Est-ce que ta famille était avec toi à ce moment-là?
Ouais, ma famille était avec moi. Par contre, en fait, le protocole, comment ça se passe, c'est qu'il y a seulement une personne qui peut être avec toi. Mm-hmm. Pour que si jamais il se passe quelque chose, ben tu sais qu'il n'y ait pas toute ta famille, tous tes amis dans une petite pièce. Là.
Mm-hmm. Ouais, c'est une complication.
C'est
là.
Ça, exact. Fait qu'il y a seulement une personne qui peut être là. Fait que oui, c'est ça, ma famille était là, mes amis étaient là. Puis ils s'alternaient, en fait. Là. Fait que tu sais, on a tous pu vivre ce beau moment-là ensemble.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, écoute.
Combien de temps ça prend?
C'est quand même un bon processus. Ça dure, en fait, c'est sur deux batchs, en fait, deux poches, si je peux dire ça comme ça. C'est environ, tu sais, 3 à 4 heures
par poche.
Exact, c'est ça. Fait que c'est ça. Ils font ça comme ça pour être sûr que, ben, ça, tout se passe bien. Tu sais, ton corps, il réagit pas après la première poche.
Mm-hmm.
Puis c'est ça.
Puis, y a-tu des risques à cette intervention-là, tu sais, que soit que le, que le, l'intervention comme telle fonctionne mal ou que ton corps rejette la nouvelle moelle ou quelque chose?
Oui, bien clairement, il y a des risques. Souvent, il y avait des infirmières qui me disaient, puis même les médecins, peut-être c'était pas les meilleurs termes à utiliser à ce moment-là, mais ils me disaient, tu sais, ça passe ou ça casse. Puis en plus...
ça fait cool.
Ouais, c'est ça. Puis surtout parce que, en fait, moi...
Cool.
Parce que moi, en fait, en plus, à ce moment-là, je faisais de la température. J'étais tellement à plat que mon corps, il se battait, puis il faisait de la température. Puis les médecins, ils me disaient, ben si ton corps, il fait de la température, c'est parce qu'il est en train de se battre contre un virus ou quelque chose. T'sais. Puis c'est pas le meilleur timing pour te greffer. Mais fait que ma greffe, elle avait été retardée d'une semaine pour essayer de voir si ma température allait baisser, mais finalement, elle baissait pas. Fait que c'est ça que le médecin m'avait dit. Il m'avait dit, on n'a pas le choix, là, c'est maintenant ou jamais. T'sais. Fait que ça passe ou ça casse.
Ouais.
Faut qu'on y aille. Tu sais, oui, il y a des possibilités de complications. Ton corps, il peut faire un rejet.
Mm-hmm.
En fait, la greffe, ton corps, il peut se battre contre la greffe. Puis ça peut prendre différentes formes. Je l'ai vécu un petit peu. Mon corps, il se battait contre ma greffe. Puis ma greffe, elle attaquait mon foie, en fait. Fait que longtemps après ma greffe, j'ai eu des problèmes avec mon foie. Fallait faire attention à certaines choses. J'ai des problèmes aussi au niveau de ma peau. Là, si ça peut paraître, là, tu sais, des fois, il y a des petites plaques, des rougeurs. Il y a un terme pour ça, là, je m'en souviens plus exactement. Là. Mais c'est ça, c'est en fait sa greffe qui attaque ton corps, puis mm-hmm. c'est le temps que les deux, ils s'imbriquent un peu. Là, mm-hmm. C'est ça, exact.
Fait que tu disais que tu avais été un mois et demi après la greffe, encore à l'hôpital?
Ouais, c'est ça. Ça, c'est le temps, en fait, que ta moelle puisse générer ta nouvelle
par formation. Par elle-même,
ouais. Exact, c'est ça. Puis ça, c'est tellement des beaux moments, parce que comme je disais tantôt, à tous les matins, prise de sang... Puis là, on m'apportait un petit papier, là, un peu comme une carte d'affaires, avec hémoglobine, globule blanc, puis plaquettes, puis avec mes stats.
De plus en plus, les stats augmentaient à chaque jour.
Fait que tu peux voir au début, là, tu pars de 50, puis là, hop, tu tombes à 60. Puis là aussi, c'est surtout les neutrophiles qu'on surveillait dans le temps, qui est ton système immunitaire. Parce que pour pouvoir sortir de l'hôpital, il faut que tu atteignes le chiffre de 1000. Mais tu sais, moi, je partais vraiment de zéro.
Parce que ton corps avait été mis à pleu.
Exact. Mm-hmm. Puis il y a la chimio, puis la radiothérapie. Fait que c'est ça, tu sais, tu reçois à tous les jours ton petit papier, puis là, tu regardes, ah, il est encore à zéro. Là, le lendemain, ah, c'est encore à zéro. Puis là, oups, on en a deux. Puis là, après, oups, on en a cinq. Puis là, ça continue à monter comme ça, puis à un moment donné, ça pogne bien. Puis là, oups, on est à 75. Puis là, ça fait juste monter. Puis moi, c'est ça, ça m'avait pris à peu près là, un mois et demi avant d'atteindre le 1000 neutrophile pour pouvoir sortir de l'hôpital.
Puis tu sentais-tu ton énergie comme revenir, un peu retrouver la personne qui t'étais avant?
Ouais, un petit peu. Tu sens ton énergie remonter, mais surtout tu sens tes couleurs, là, tu commences à remonter. Là, quand tu recommences à avoir l'hémoglobine, c'est souvent la chose qui monte le plus rapidement.
Mm-hmm.
Fait que quand tu passes de 50 d'hémoglobine à un plein 150, ben là tu le sens. Tu as plus d'énergie, tu as plus de la misère à marcher dans ta chambre. Tu attends juste après ton système immunitaire pour pouvoir sortir.
Mm-hmm. Ouais.
Wow. Mm. Olivier, toi, après la greffe, après le don, est-ce que tu as des points négatifs? Est-ce que tu as une baisse d'énergie? Est-ce que, à part la journée même, là, y a-tu autre chose après ou rien du tout?
Non, vraiment pas. En fait, j'ai fait le don le lundi. Le mardi, j'avais une journée de repos ici à Montréal. Mercredi matin, je reprends l'avion pour Rouen. Mercredi après-midi, je suis retourné au travail.
Ah ouais, hein?
C'était mes collègues me disaient, ouais, on t'es débile. Comment ça, t'es déjà ici? Puis t'as eu quand même un gros processus. Mais les effets secondaires, il n'y en a pas vraiment. La journée même, oui, je me sentais faible. Puis
comme un vaccin, mettons.
Ouais, ben, tu
sais. Comme un don de sang, un peu, genre.
Ouais, ben, honnêtement, j'ai pas fait de don de sang. Je pourrais pas te dire.
Ouais, ok, ouais, ouais.
J'ai fait les cellules souches.
T'as commencé direct dans le vif du sujet.
Exact. C'est sûr, quand je suis arrivé à l'hôtel, là, je me souviens de la ride de taxi de Maisonneuve-Rosemont jusqu'à l'hôtel. Là, j'avais hâte d'arriver.
T'étais tout seul? T'es-tu venu ici tout seul?
Ouais. Puis ma mère, à son grand désespoir, elle voulait venir avec moi, mais il y avait encore les règles de COVID à l'hôpital. Je pouvais pas être accompagné. Donc c'est ça, j'étais seul, mais quand que je suis arrivé,
c'est tough pour une mère ça.
Oui.
De laisser son gars partir en avion tout seul pour aller faire ça.
Ben vraiment, puis les infirmiers et infirmières ont trouvé ça drôle, là. J'aurais demandé de prendre des photos, ils ont pris une vidéo aussi, puis là j'ai envoyé ça à mes parents, puis ils voulaient savoir comment que ça se passait. Puis c'est mystérieux là, quand que vous connaissez pas ça, puis moi non plus, je connaissais rien avant ça.
Tu peux pas leur expliquer, ça allait être comment?
Ben, j'ai eu la chance, par exemple, Hémo-Québec m'a mis en contact avec deux personnes qui ont déjà été donneurs. Donc, ils m'ont parlé de leur expérience pour m'expliquer comment que ça allait se passer. Mm-hmm. Puis ça c'est vraiment rassurant, là. En fait, ça t'explique le processus. Puis les deux personnes à qui j'ai parlé, elles aussi, elles me disaient que s'il y avait à recommencer, là, elles le referaient. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, la journée même, t'es fatigué, t'es brûlé. J'ai dormi un très bon bout. Le mardi, ça allait bien aussi. Puis le mercredi, ton corps se régénère tellement rapidement. Puis j'ai trouvé ça drôle, le médecin qui était là à ce moment-là, le lundi du don, me disait, tu sais, c'est quand même bon pour ton corps de faire ça, parce que on fait jamais de, entre guillemets, de changement d'huile dans son corps. Là.
Ouais.
On en fait dans nos voitures, mais on n'en fait pas dans notre corps. Puis mm-hmm. c'est très bien de faire ce processus-là.
Que ton corps recrée tout, puis ça start exact. Fresh, là, dans le fond.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand t'es donneur comme ça aussi, t'as plusieurs examens médicaux à passer avant pour s'assurer de si t'as des maladies, peu importe, s'assurer que t'es en bonne santé. Puis, tu sais, c'est un gros avantage, on s'entend, avec le système de santé qu'on a de passer. J'arrivais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est arrivé avant. Là, c'était quelques mois avant la greffe, avant le don, pardon. Puis, t'sais, j'avais mon papier Hémo-Québec, puis j'arrivais dans la salle d'attente pour passer un rayon X. Il y avait des dizaines de personnes qui attendaient. Moi, je montrais mon papier Hémo-Québec, puis let's go, tu passes tout de suite parce que c'est prioritaire, parce que la situation est très urgente. Mm-hmm. Fait que s'il avait trouvé quelque chose, je l'aurais su aussi.
C'est ça, c'est comme, fait que ça permet de faire un check-up. Genre, c'est comme, mets ton char au garage, faites la totale, puis changez l'huile.
Exact. Fait que non, c'est un bon processus pour savoir toi-même, t'as un bon bilan santé aussi. Ouais. Mais au final, je vous le dis, j'espère qu'avec qu'est-ce qu'on vous partage vous-même, vous allez vous inscrire au registre.
Ben oui. Ben oui.
Mais il n'y a pas d'effet à long terme sur la personne.
Ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, comme on disait tantôt, le bénéfice que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un versus ce que ça coûte à quelqu'un de s'inscrire là-dessus, puis de peut-être un jour aller une couple de jours donner de la moelle,
c'est ça.
C'est quand même, je veux dire, un petit coup pour une grande différence.
Mm-hmm. Avoir une semaine payée à Montréal pour les gens qui veulent venir voir la métropole.
Ouais, j'ai fait du télétravail, là.
Ouais, ouais,
je suis venu travailler, mais c'est vrai, tu sais, il y a un gars de région qui s'en vient ici, c'est sûr que. Bon, je n'étais pas
connu Montréal. Tu peux faire quelque chose quand la semaine avant, quand tu fais les injections, parce que il y a sûrement des gens qui s'interrogent par rapport à l'implication réelle de faire un don, là. Les cinq jours avant, quand tu t'injectes à chaque jour, ça ressemble à quoi ton niveau d'énergie ou quel effet ça a sur ton corps?
Les premiers jours, tu n'as aucun effet. Honnêtement, ça va très bien. C'est les 24-48 heures avant que là, tu sens le médicament faire effet parce que ça stimule tellement tes cellules souches que là, tu deviens un peu fatigué, mais aussi tu peux avoir une petite douleur dans le bas du dos parce que c'est là que ton corps en produit beaucoup. Puis moi, j'ai eu un gros mal de tête, puis on m'avait averti que c'était un effet secondaire possible, mais tu peux le traiter avec les Advil, Tylenol en parallèle. Mm-hmm. Fait que ça valait pas... ce désagrément-là vaut pas la peine de te freiner pour faire le processus. Mais honnêtement, j'étais pleinement fonctionnel. Là. Dans ces journées-là, j'en ai profité. Mon frère habite ici. J'ai vu mes amis d'université aussi. Fait que, tu sais, j'étais pas... j'étais pas obligé de rester dans ma chambre.
Ben, c'est ça, là, c'est ça. T'étais pas dans ta petite chambre dans le noir à te morfondre pendant 5 jours.
À s'injecter.
À s'injecter, là, tu sais, c'est comme... C'est pas ça.
Non, vraiment pas.
Comment ça se passait, toi, pour tes injections? T'étais capable de t'injecter toute seule?
J'ai eu peur un petit peu, là, ouais. Je dois l'avouer. Là, la première fois, si t'es pas capable de le faire toi-même, tu peux aller à l'hôpital puis ils vont te le faire.
Avec ta petite carte, fait que tu perds pas toute ta journée.
Exact. Hein, ouais. Mais tu sais, c'est deux fois par jour, c'est matin et soir, puis aux 12 heures en fait. Puis ils m'ont montré comment faire, puis je l'ai fait après. C'est vraiment dans le ventre, là, puis il faut vraiment que tu te l'injectes correctement. Mm-hmm. Parce que...
Je te demande ça parce que moi aussi, j'en avais à m'injecter comme après ma greffe. Ben moi, c'est ça l'affaire. Moi, j'étais pas capable de m'injecter moi-même. Okay. Non.
Mais est-ce que tu avais l'option de le faire? Mettons, ils t'ont dit tu peux le faire toi-même.
Oui, 100%. Okay. J'allais à la pharmacie, puis ils me donnaient mes fringues déjà toutes préparées, t'enlevais le petit cap, puis c'était prêt. Ready to go. Mais moi, j'étais pas capable de...
Ready to pop.
C'est ça. Mais écoute, j'étais pas capable de m'auto-piquer, peut-être une petite phobie des aiguilles. Fait que c'était ma blonde dans le temps qui était responsable de m'injecter. Ouais. Puis ouais, il avait dit, en fait, tu peux te pratiquer sur un orange ou sur une pomme. C'est semblable. Pratique-toi, puis ça va bien aller. Mais l'affaire, c'est que c'est pas semblable.
Mais moi, je trouvais que c'était comme se faire piquer par une mouche, là, un maringouin, une mouche noire, peu importe. Là, fait que c'était pas... c'était douloureux. Ça pouvait être sensible, parce qu'on s'entend, ça a été pendant 6 jours de temps, soir et matin, mais c'était pas la fin du monde. Non, mais quelqu'un qui a peur des aiguilles, je peux comprendre cette réticence-là, par exemple.
Mais aller à l'hôpital pour le faire après ça.
Ben, c'est ça.
Puis l'autre option est a pas besoin de passer par ce processus-là d'injection.
Là, je pourrais pas dire. Là, je sais pas. Là, je sais qu'il y a une médication à prendre quand même pour stimuler la production de tes cellules. Je présume que oui, mais tu sais, je pourrais pas te le confirmer officiellement.
Je comprends. Je comprends.
Puis depuis que tu as fait ça, j'imagine que dans ta vie, tu dois être un peu un ambassadeur du don de moelle osseuse. Tu dois en parler autour de toi. T'as-tu inspiré des gens à le faire aussi?
Je pense que oui, mais il fallait quand même que je sois discret. Parce que je peux pas rien mettre sur les réseaux sociaux. Là, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui vont savoir avec le podcast, justement. Mais ça va faire...
Un an.
C'est ça. Donc là, je peux vraiment plus le diffuser puis en parler, parce que la période d'un an, ils veulent pas que le...
Tu me dis que tu peux même pas braguer ces réseaux sociaux que t'as sauvé une vie.
En fait, tu te promènes dans le monde, puis genre... Tous ces gens-là savent pas que je suis un héros.
Peut-être que dans la bio Tinder, ça pourrait faire...
C'est vraiment genre Batman.
Sauveur de vie, donneur de cellules souches. C'est ça. J'aime la cuisine asiatique.
Mais non, c'est ça. Donc, la période d'un an, tu peux pas le diffuser pour pas que le receveur, si par exemple il a fait un rejet, qu'il prenne contact avec toi puis essaye de te soudoyer d'une certaine manière, de dire hey, tu t'as déjà dit oui, j'en ai besoin une deuxième fois, fais-le.
Ouais, je comprends.
Donc c'est des mesures de protection qui sont mises par Emma Québec, puis honnêtement je pense que c'est correct là, de le faire comme ça, mais ça risque que là, moi j'ai écrit la lettre là, comme je disais tantôt, à la personne, puis
sans entrer trop dans les détails, qu'est-ce que tu démontres l'intérêt de la revoir?
Ouais, ben honnêtement, j'ai vraiment expliqué mon histoire, là, comme j'ai vu ça passer sur Facebook, puis je voulais faire honneur un peu à cette personne-là qui faisait la promotion du registre des cellules souches. Tu sais, en Abitibi, communauté qui est vraiment tissée, serrée, là, puis elle, cette jeune fille-là qui avait besoin de la greffe, était au Témiscamingue, puis je me souviens, j'avais vu dans l'article de journal qu'entre le moment où il y a eu la publication Facebook, puis l'entrevue à Radio-Canada, il y avait eu 10 jours environ, il y avait eu 75 personnes qui s'étaient inscrites au registre, puis Emma Québec nous en parlait tantôt, c'est énorme.
C'est gros, là.
C'est
oui,
énorme. Fait que ça peut avoir fait la différence, puis moi, parmi ces 75 personnes-là, j'ai eu une compatibilité. C'est vraiment wow, là.
Wow. Effectivement.
Oui.
Toi, Jonathan, si je me trompe pas, la personne, le donneur que t'as, ou le donneur que t'as reçu vient d'un pays où est-ce qu'il y a des règles qui font qu'ils sont anonymes pour toujours? Est-ce que je me trompe quand
j'ai pas eu cette information-là. En fait, on sait que ça vient d'Europe. On sait pas où en Europe. Un peu comme Olivier, moi aussi, j'ai écrit une lettre de remerciement. Je l'ai remis à Emma Québec, eux se sont occupés de la transmettre. Après ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que le donneur a reçu ma lettre. Peut-être qu'il a décidé de rester dans l'anonymat. Mais j'ai pas de nouvelles.
Tu serais intéressé à parler à cette personne-là, ou c'est-tu quelque chose que comme...
Ouais. C'est sûr que oui, mais oui. C'est sûr que je veux la remercier en personne. Avec les moyens d'aujourd'hui, on peut FaceTime ou faire un Zoom, quelque chose, savoir un peu, juste la remercier. Parce que c'est quelque chose aussi, tu sais, t'as reçu ce cadeau-là, mais tu peux pas, tu sais, remercier la personne. Tu sais, t'as reçu la vie, puis tu veux juste dire merci, là. Tu veux serrer dans tes bras, tu veux dire merci à quel point ça a été quelque chose d'important pour toi, mais tu peux pas, tu sais.
Vous regarderez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a le ministre Dominique Leblanc du gouvernement fédéral que lui a reçu une greffe aussi comme ça. Puis son donneur était de l'Allemagne. Puis ça a été médiatisé, ils se sont rencontrés. Puis c'est vraiment touchant de voir une situation comme ça. Puis il y a une vidéo aussi d'Emma Québec qui a été faite, là, Clémentine et Sophia. Puis vous irez voir ça aussi.
Ah, c'est incroyable.
Tu regardes ça, puis l'émotion, elle te prend, là, parce que tu prends conscience de l'importance de ce geste-là qui est posé.
Parce que c'est ça, là, ça met le concret sur justement, tu sais, quand c'est, tu donnes ça, c'est anonyme, ça va probablement être, ben, en fait, ça va presque sûrement être un inconnu qui va recevoir ça. C'est vraiment abstrait pour le cerveau humain, on dirait, là, d'imaginer ça, sauf que là, quand tu vois finalement ces deux personnes-là se rencontrer, puis voir, OK, ben là, cet humain-là
a sauvé
la vie de l'autre, cette main-là vit à cause de l'autre.
Ouais.
C'est fou quand même.
C'est ça. C'est un peu ça que je disais dans la lettre là, de la personne à qui je l'ai envoyé, de dire j'espère un jour te rencontrer pour mettre un visage sur le point d'interrogation qu'il y a dans mon cerveau présentement sur t'es qui. Puis tu sais, évidemment, je peux pas donner de détails sur moi pour pas qu'elle puisse me retrouver, mais c'est là où est-ce que j'expliquais un peu le processus que moi j'ai passé. Puis le don a été reporté à quelques occasions parce que le corps de la personne, le système immunitaire était pas prêt encore à le recevoir.
Fait que t'as-tu fait plusieurs fois Abitibi, Montréal, en espoir de venir ici?
C'est arrivé une fois.
C'est arrivé une fois.
Puis les autres fois, on a réussi à m'informer à l'avance que le processus était reporté.
T'étais déjà venu, puis là tu repars, puis là ils te rappellent, tu fais OK, parfait, on revient. Fait que t'es quand même.
Ouais, puis j'avais la chance de justement. Le bureau d'avocat pour qui je travaille, on a un bureau aussi à Montréal. Donc, tu sais, il y a moyen de le faire en télétravail ou de m'organiser. Puis. Mon employeur était vraiment compréhensif par rapport à ça, puis une chance, parce que je pense pas que dans ma situation précise, n'importe quel métier ou profession permettrait de le faire comme ça.
Ouais, ouais.
C'est plus facile quelqu'un qui est ici à Montréal, là, si ça avait été reporté comme ça, ça n'a pas d'impact vraiment sur ton quotidien.
Parce que entre le don puis la transfusion, faut que ça aille vite. Tu peux pas faire un don puis congeler ça puis le donner 3 ans plus tard.
Ça, je pense pas. Moi, je sais que ça a été fait dans les jours qui ont vraiment suivi. Ouais, okay. Tu sais, comme Jonathan expliquait tantôt, c'est comme une pâte, les cellules souches, comme une pâte de tomate un peu. Là. Moi, je voyais, il y avait le soluté à côté de moi, puis qui se remplissait au fur et à mesure. Puis à un moment donné, tu as la cloche qui sonne parce qu'ils ont atteint la quantité de cellules souches nécessaires pour le corps du receveur. Puis là, c'est comme dans les films. Tu sais, moi, il y a le monsieur qui est arrivé. Tu sais, il y a le monsieur qui arrive avec la boîte à lunch rouge, qui met ça sur le comptoir, qui se dépêche à prendre le soluté, qui met ça là, il met ça dans la glace, puis lui, il repart. Puis là, c'est fini. Là.
Mais ça se peut qu'il ship en Australie, là.
Ouais, ça se peut. Ça se peut. Puis comme ça se peut, peut-être que la personne est dans l'hôpital, puis que je suis pas au courant.
C'est fou, ça.
Puis, tu sais, les infirmières sont là. Ben, tu sais, félicitations, lui. Tu viens de sauver la vie de quelqu'un, puis c'est fait. Puis. Là, tu comprends, là, t'es plein d'émotions. Moi, je suis venu les yeux pleins d'eau en me disant que j'avais juste le goût de serrer quelqu'un dans mes bras parce que c'est fait. Là.
Sans tomber trop dans l'ésotérisme, parce que c'est pas une spécialité du Sans Filtre podcast, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose de... tu sais, les chances sont tellement faibles que le bagage d'ADN soit un match... On dirait qu'il y a quand même quelque chose de cosmique qui rejoint deux personnes comme ça. Là. Il y a vraiment... je sais pas comment l'expliquer autrement que ça. Là. Parce que oui, il y a ta famille, mais quelque part d'autre dans le monde, il y a quelqu'un qui a un match encore plus que ta famille.
C'est ça.
C'est fou, là.
Ben, fun fact, j'ai des allergies, moi. Des allergies aux noix, aux arachides, et j'ai transmis ça à la personne. Parce que ça fait partie de mon bagage génétique.
Tabarnak! C'est ça. Elle habitait en Thaïlande, puis il y avait des arachides. Finalement, elle est morte d'une réaction d'un choc anaphylactique.
Ouais. Elle est rendue dans son quotidien qu'elle a besoin d'un épipène aussi, comme moi. Mais tu sais, c'est peu comparativement à la vie que
j'ai. On s'entend, je faisais des jokes.
C'est ça, mais c'est drôle de se dire que cette personne-là, maintenant, a vraiment mon identité.
Soudainement, elle a un goût pour le droit, puis là, elle est avocate. Là,
exact.
Genre...
C'est peut-être l'amour de ma vie.
C'est vraiment là, genre, tu as ton âme. Là.
Toi, t'as-tu quelque chose qui t'est apparu, un nouveau super pouvoir qui t'est apparu?
Il n'y a rien qui m'est apparu. Par contre, moi, j'ai changé de typage de sang. En fait, c'est pas grand-chose, là, mais avant, j'étais O négatif, puis là, je suis rendu O positif. Oh, ouais. Fait que j'ai pris le
type de sang.
Le type de sang de mon donneur, ouais.
Ah ouais, hein? C'est fou pareil, ça.
Aïe. Ouais, ouais.
C'est impressionnant.
Ouais.
Puis, Jonathan, toi, ta vie a repris comment après?
Graduellement, je te dirais. En fait, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai passé par une maison de transition un peu. C'est une maison des greffés, ça s'appelle. C'est sur Sherbrooke, à Montréal. Puis, en fait, les médecins, ils te recommandent de passer par là. Parce que, tu sais, t'es tellement encadré à l'hôpital, puis là, tu sors d'un coup, ta santé est encore un peu fragile, fait que c'est bien de passer par là. Fait que j'ai passé un bon mois et demi dans cette maison-là où il y a des infirmières, où, en fait, la nourriture est contrôlée parce que tu peux pas tout manger, où il y a des installations un peu adaptées pour ta situation. Puis après ce passage-là, en fait...
De combien de temps, à peu près?
Un mois et demi, à peu près. J'ai retourné chez moi. Je retourne chez vous. Puis là, Ma santé est encore un peu fragile, tu sais, t'es pas top shape. Surtout, j'ai eu quelques complications après la greffe, là, mais mon hémoglobine, ça fonctionnait bien, mon système immunitaire aussi, mais mes platelettes, ça a été plus long avant que ça prenne. Même j'ai dû en fait me faire enlever la rate parce que ça fonctionnait pas. Là, la rate est comme un peu un filtre pour ton sang. Quand mon sang passait dans ma rate détruisait mes plaquettes. Mmh. Fait que pas trop cool. On a enlevé la rate, là ça a bien fonctionné. Mais après, c'est ça. Tu sais, il y a des petits ajustements que tu dois faire. Tu sais, au début, tu peux pas tout manger, tu peux pas faire toutes les activités que tu faisais avant, surtout que t'as pas de plaquettes. Moi, je faisais beaucoup de vélo. Tu peux pas tout de suite monter sur ton vélo, partir faire une ride. Là. Si tu tombes, ça peut être assez dangereux. Fait que c'est ça. J'ai pris une bonne année de pause, tranquille, un peu me remettre de tout ça. C'est beaucoup d'émotions puis beaucoup de douleurs physiques aussi quand même. Puis après, c'est ça. J'ai repris ma vie comme d'habitude. En fait, j'ai continué. En fait, là, je venais de finir mon cégep. Fait que j'ai commencé l'université. J'ai pu finir mon université, j'ai fait ma maîtrise, puis là, je suis remarché du travail, en fait. Fait que j'ai pu reprendre ma vie, faire ce que je voulais faire, puis c'est ça.
Est-ce qu'il y a des risques que, mettons, la greffe que tu as eue devienne désuète, puis tu as besoin d'une autre, une fois que c'est fait,
non,
c'est réglé, c'est pas
le cas? Non, mais pas vraiment, c'est ça. Une fois que c'est fait, un coup que je suis rendu un peu au moment où je suis, c'est parce que quand tu prends ta greffe, tu dois prendre des anti-rejets, en fait. C'est des médicaments qui vont... des immunosuppresseurs qui vont réduire ton système immunitaire volontairement pour que ton système immunitaire n'attaque pas ta greffe. Mm-hmm. Fait que ça, normalement, quand tu reçois ta greffe, c'est un an. Tu dois prendre ça. Moi, comme je l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Ça a pris 5 ans, au moins, avant que je puisse complètement stopper les anti-rejets. Mais un coup que cette étape-là est franchie, ben, c'est correct.
C'est là pour rester.
C'est ça, ta greffe, elle a bien été implantée, elle fonctionne bien, tout ça, c'est cool. Fait que tu peux passer à d'autres choses. Là.
Puis aujourd'hui, tu vas bien.
Ouais.
Aujourd'hui, tu n'as rien, aucun truc qui traîne de ça. Là.
Non, aucune séquelle, à part ma rate, là, comme je vous disais, là, j'ai perdu la rate, mais bon.
Au quotidien, que ça fait avoir
ça fait rien.
Plus de rate?
Ça honnêtement, fait ça fait rien, non, c'est ça. Puis même.
Je peux plus dire, je me dilate la rate.
Non, c'est ça.
Quand on trouve ça drôle.
Non, c'est ça. Je peux skipper cette expression-là.
Qui est bien correct, on n'est pas obligé de tant l'utiliser, cette expression-là.
Ouais, exact. Mais sinon, non, dans la vie tous les jours, là, j'ai plus aucune séquelle. Tu sais, tout se passe bien. T'sais, je m'entraîne régulièrement, je fais du sport. La vie est belle.
Wow. Fou. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre le témoignage de Jonathan?
Ça fait une satisfaction. Là. C'est de voir que lui a pu reprendre sa vie comme ça. C'est pas mon receveur,
non,
mais je m'identifie quand même à son histoire parce que grâce à son donneur, qui lui non plus, il connaît pas encore, ben il peut avoir cette vie-là aujourd'hui, faire sa profession, puis vivre sa vie normalement. C'est comme une parenthèse, on dirait que j'ai l'impression dans ta vie que t'as eu un moment où est-ce que ça a été plus rough, mais aujourd'hui, tu vis autre chose. Donc, de voir, moi, ça... De rencontrer quelqu'un qui est passé par ce processus-là, mais de l'autre côté, ça fait juste me confirmer que j'ai pris la bonne décision, puis qu'au moment où est-ce que j'avais des interrogations à savoir je le fais-tu ou je le fais-tu pas, ça vient juste justement prouver que le peu de désagréments que je peux avoir vécu pour le faire, ça vaut tout l'or du monde. De savoir que lui est en pleine santé, puis qu'aujourd'hui, il est en vie grâce à son donneur. C'est fou, honnêtement. De se dire que tu sauves la vie de quelqu'un... C'est une grosse phrase, je trouve, à dire.
Mais hein.
Puis toi, Jonathan, quand tu rencontres du monde comme Olivier qui a fait ce choix-là de donner, j'imagine que ça te fait quelque chose.
Ah
là,
ouais,
tu te dis, crime, c'est à cause de monde comme toi que je t'envie.
Je trouve ça tellement beau. Tu prends du temps pour sauver un inconnu que tu connais pas, c'est tellement... Tu sais, quel geste tu peux faire de mieux que ça? Là? C'est littéralement, tu sauves une vie. Puis tu sais, c'est... Je trouve que... Peut-être le temps, il est peut-être moins bien choisi, mais je trouve que c'est tellement accessible un peu. Là, tu l'as raconté, ton histoire, tu as pris une semaine, puis il y a un autre traitement aussi, là, tu peux le faire via la ponction, que c'est anesthésie générale, ils prennent ta moelle osseuse, puis tu te réveilles, bon, tu as l'impression d'être tombé sur la glace, mais tu te dis, OK, j'ai sauvé une vie, là. J'ai pu permettre à quelqu'un de continuer à vivre sa vie, à réaliser ses rêves. Qu'est-ce que tu veux offrir de mieux, là? Tu sais, c'est...
Ouais, c'est ça. Le désavantage est tellement... Il n'existe pas, dans le fond. Il n'y a comme pas de downside. Mm. Puis évidemment que l'objectif de ce podcast-là, c'est d'inviter les gens à s'inscrire au registre, mm-hmm. parce que l'inscription coûte rien. Peux-tu nous parler de comment ça fonctionne, l'inscription?
Ah, c'est vraiment simple. En fait, c'est sur le site Internet de Emma Québec. Il y a le registre des donneurs de cellules souches. Tu fais juste remplir quelques informations médicales qui présentent un peu ton portrait, t'es quel type de personne. Tu envoies ça, puis si Emma Québec, avec ce premier filtre-là, considère que t'es admissible, parce que c'est les personnes de 35 ans et moins qui peuvent être inscrites au registre, mais tu peux donner quand même, passer cet âge-là. Parce que plus t'es jeune, plus les chances de succès de donner tes cellules souches est grand auprès du receveur.
Un petit message à tous les auditeurs du Sans Filtre, ça s'en vient. Ça s'en vient le 35, fait que allez-y, c'est le temps de s'inscrire. Là.
Ouais. Exact, puis ça vaut la peine.
Tu t'inscris avant 35, mais tu peux donner quand même dans les années après.
Exact. Ouais. En autant que tu as été inscrit avant 35 ans. Mm-hmm. Puis c'est ça, puis une fois que ce premier filtre-là est fait avec ton questionnaire médical, tu reçois une trousse ensuite par la poste de coton-tige. Tu la passes dans ta bouche, puis tu envoies ton ADN, puis tu n'en entends même pas reparler après. Peut-être que tu n'auras aucune nouvelle comme que tu peux en avoir, comme moi j'ai eu. Puis c'est la seule chose que j'ai eue. Donc une fois que là, j'ai eu la confirmation que j'avais une compatibilité, ils m'ont appelé. Emma Québec m'a fait monter à Montréal justement pour faire mon grand bilan sanguin, là, une journée. Mm-hmm. À Maisonneuve-Rosemont, j'ai fait ça.
Une fois que tu as eu la compatibilité, excuse-moi.
Exact.
Fait que pendant 4 ans, tu n'as eu pas de nouvelles.
Exact. J'ai eu aucune nouvelle.
Toi, c'est ça. Ça n'existait plus dans ta tête.
C'est ça. Puis c'est au moment où est-ce que je suis venu faire le bilan sanguin.
Là, c'est que ça ne te dérange pas de le faire parce que tu sais qu'il y a un match.
Exact. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis une fois que ça s'est fait, tous les examens médicaux ici à Montréal, je suis retourné en Abitibi. Puis après ça, ben dans les jours précédents, c'est sûr qu'il y avait des prises de sang à prendre pour s'assurer qu'il n'y avait pas rien qui s'était développé entre-temps. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait à l'hôpital de Rouyn. C'était très pratique. Puis après ça, l'hôpital de Rouyn transférait tout ça à Maisonneuve-Rosemont. Puis c'était fait... T'sais, honnêtement, ça t'implique en rien de plus. Si les gens peuvent croire que c'est un peu plus compliqué à cause que, comme moi, je viens d'une région, fait que le seul centre transplanteur est à Montréal. Mais en même temps... C'est rien qu'on passe.
S'il n'y a pas de match, tu viens pas à Montréal. De toute façon.
Tu n'en entendras plus jamais parler.
Ouais.
Mon frère s'est inscrit en même temps que moi là, quand on a vu l'article de journal, justement.
Ouais.
Puis lui, il n'a jamais été appelé, il n'a jamais été contacté. Donc, ça veut dire que lui et moi, on n'est pas compatibles.
Ouais, aussi.
Dire que lui aurait pu aussi, si par exemple on était compatibles l'un et l'autre, lui aussi aurait pu être appelé pour peut-être le même recevoir. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est ce processus-là, c'est très simple.
C'est fou parce que il y a absolument. Aucun coût, il n'y a absolument aucun point négatif. Puis, si tu t'inscris, la seule chose qui peut arriver, c'est un appel en te disant tu as l'occasion de sauver une vie.
Ouais. Exact.
Il me semble que c'est fou.
Un no-brainer.
Là. Fait que c'est ça, c'est un no-brainer. Puis, j'invite vraiment, comme, puis je sais qu'on va en parler aussi quand vous ne serez pas là, on va refaire des petits segments pour inviter les gens à le faire. Mais, comme, j'invite vraiment tout le monde qui écoute ça à s'inscrire au registre. Là, c'est. C'est vraiment un no-brainer. Là.
C'est vraiment, tu sais, en fait, moi, c'est pas quelque chose que je reconnaissais tant que ça avant qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une affaire d'en parler, de l'information, puis de sensibiliser le monde à quel point comme c'est important. Parce que justement, une fois que tu entends des histoires comme ça, une fois que tu t'informes sur qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la différence que ça peut faire, comme tu dis, c'est un no-brainer. Là. Je veux dire, c'est une décision importante, une petite décision qu'on peut faire dans la vie, mais qui a des conséquences vraiment grandes. Là,
ouais. Vraiment.
Toi, excuse-moi, vas-y.
Non, ben ce que j'allais dire, tu sais, moi non plus, je connaissais pas l'existence du registre avant de voir la publication Facebook passer. Donc, c'est un peu hasard. Puis, tu sais, quand je les ai contactés, Marcel, Marie-Ève, qui ont fait l'entrevue, qui expliquaient qu'ils recherchaient un donneur compatible pour leur ami, elle était tellement émotive de se dire que grâce à notre visibilité, je suis peut-être la seule personne qui les a contactés que ça a fonctionné, de dire... Il y a un peu de votre amie Amélie qui est décédée là-dedans. C'est grâce à elle que j'ai fait ça, en fait. Fait que c'est beaucoup d'émotions, en fait, partagées. C'est une belle fierté, mais c'est surtout mon point d'interrogation, là, j'ai hâte de savoir. Ouais. J'espère que cette personne-là va vouloir me rencontrer un jour.
Ouais.
Puis là, ça fait un an, ça va faire un an?
Ouais, ces jours-ci.
Ça fait un an. Fait que là, tu te croises les doigts d'avoir des nouvelles. Là.
Exact.
Ouais.
Oui, ben, tu sais, ma lettre, je sais qu'elle s'est transmise, que la personne l'a reçue, que je sais que la personne a montré une ouverture à peut-être me rencontrer. Donc, là, la suite, ça va être Emma Québec qui va le gérer. Là, mais...
Puis, il ne pouvait pas le faire avant aujourd'hui, dans le fond. Si tu me dis que ça fait un an jour pour jour, c'est le fait que ça se peut que dans les prochaines semaines.
Exact.
C'est quoi les risques, en fait? Pourquoi qu'on tient à l'anonymat puis que, tu sais, qu'on puisse pas contacter la personne avant un temps de temps? Qu'est-ce qui peut arriver de...
Ben, je pense aussi il y a des gens qui pourraient être tentés de vouloir rémunérer la personne, de dire « tu l'as déjà fait une première fois, là, j'ai un rejet, ça me le prend encore une deuxième fois, hey, t'es compatible, s'il te plaît, fais-le. » Peut-être que... Tu sais, moi, dans l'état où je suis, ça m'a tellement fait de bien, entre guillemets, là, de dire « j'ai sauvé la vie de quelqu'un », de dire « si on me recontacte, j'hésiterai pas à le refaire
ouais. ».
Mais peut-être que d'autres donneurs, eux, ça a été fait, puis je passe à autre chose. Donc, ils voudraient pas se faire recontacter par la personne, puis « s'il te plaît, fais-le ». Tu sais, je pense que les chances de rejet, ils se font aussi plus dans la période d'un an qui suit. C'est plus que moi, là. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils mettent cette période de temps-là pour pas qu'on puisse entrer en contact.
Okay.
Mais là, je sais que dans les prochaines semaines, là, je peux signer mes formulaires de consentement, de partager mon identité, puis j'espère que le receveur va faire la même chose.
Puis tu vas pouvoir commencer à en parler un peu plus dans ta vie, autour de toi, sur les réseaux sociaux, tout ça.
Oui, exactement. Là, je peux en parler un peu plus, faire de la sensibilisation, puis... T'sais, on s'entend, Emma Québec, oui, c'est à travers le Québec, mais il y a beaucoup de. Les activités se font majoritairement ici, à Montréal. Venir en région, en Abitibi, il y a les collectes de sang là, qui se font régulièrement. Mais Emma Québec, c'est plus que juste le sang.
C'est ça.
T'sais, le plasma, c'est le souche, le lait maternel. Donc, il y a beaucoup de choses qui enveloppent ça. Donc, si à ma manière, je peux être un certain ambassadeur, par exemple, de ça dans mon entourage, puis que ça peut sauver d'autres vies, ben, je vais être. Très content de ça.
Toi, Jonathan, c'est quelque chose que tu veux aussi.
Oui, bien clairement. Comme je disais un peu, puis... avant d'avoir été contacté par Emma Québec pour ce projet-là, j'avais même pas connaissance, en fait,
du registre. De comment ça fonctionnait. Ça.
Exact. Fait que je pense que c'est tellement un beau projet pour sensibiliser les gens à cette existence-là du registre. Fait que clairement, tu sais, je vais le mettre de l'avant, puis je vais essayer de. D'éduquer les gens parce que c'est quelque chose qui est tellement méconnu, en fait.
Exact.
Mais y a-tu des gens quand même autour de toi que, tu sais, que d'avoir été témoin d'une greffe de moelle, y a-tu des gens que tu connais qui sont inscrits ou as-tu inspiré du monde à comme.
Ben, c'est ça. J'ai pas pu dire aux gens inscrivez-vous parce que j'avais pas conscience de ce registre-là. Mais y a beaucoup de gens, suite à ma maladie, puis suite à toutes les transfusions de sang que j'ai reçues, qui sont allés faire des dons de sang. Là, il y a eu une collecte même là, de sang qui a été organisée. Quand j'étais au cégep, en fait, là, j'avais un bon cercle d'amis. Je participais à des compétitions marketing, tout ça. J'étais quand même pas connu. Là, je vais pas dire
cool,
ça comme ça. Là,
ben, c'est
ça. mais ouais, c'est ça. Fait, il y a une collecte de sang, en fait, là, qui a été organisée là, pour, en fait, promouvoir le don de sang. Puis tout ça. Fait, il n'y a pas eu dans mon entourage jusqu'à maintenant des gens qui se sont inscrits sur le registre.
Ouais.
Mais je suis sûr qu'après la diffusion de ce podcast-là, ça va se faire. Là.
Puis ça, c'est mondial. Dans le fond, des Emma Québec, il y en a partout dans le monde. Puis il y a des équivalents, dans le fond.
Ouais. 57 pays, on a demandé.
Ouais, c'est ça, ouais.
Il y a 57 pays qui sont signataires d'une même entente qui permet le partage de cellules souches comme ça.
Le partage du registre.
Exact, ouais. Je pense 44 millions de personnes.
Oui, à travers le monde.
Ils sont inscrits.
Ils sont inscrits sur le registre. Donc, vous imaginez, moi, j'ai eu cette compatibilité-là parmi 44 millions de personnes.
Ouais.
C'est vraiment gagné à la loterie.
Ouais. C'est fou.
Un autre fun fact, je l'ai dit tantôt à Corinne, l'infirmière qui s'occupait de mon dossier. Moi, quand elle m'a appelé et qu'elle m'a dit, ton niveau de compatibilité est vraiment élevé. Puis, achète-toi un billet de loterie parce que ça vaut quelque chose. Ben moi j'ai gagné 100$ avec ça. Je l'ai regardé.
Gagne tout là. C'est bon ça.
Ben c'est très symbolique. Là.
T'as gardé le billet ou t'as gardé le 100$?
Le 100$. mais tu sais, j'ai pas dépensé, là. Il est dans une petite boîte avec mes trucs là, du don, mais c'est ça. T'sais, il y a 55 000 personnes au Québec inscrites sur une population de 8-9 millions. On est capable d'aller en chercher plus encore.
Ben oui.
C'est clair.
On espère vraiment. Que ce podcast-là va faire une différence, là, honnêtement.
Un effet positif.
Ouais.
Vraiment. Puis, on vous remercie.
On vous remercie beaucoup, les gars. C'était vraiment une belle conversation.
Yeah. Merci de l'invitation.
Merci.
All right.